20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. La seule façon de mettre les gens ensemble, c'est encore de leur envoyer la peste. Les archéologues adhéreront sans nul doute à cette phrase d'Albert Camus. D'ailleurs, ils en apportent la preuve sous leur truelle, amalgamés et blanchis par les siècles, des centaines, des milliers de corps jetés ou déposés dans des fosses. Pulmonaire ou bubonique, voire septicémique, celle-ci peut être noire, antonine ou justinienne, mais s'accorde surtout de toponymes Londres, Marseille, Paris, Moscou et flambe toujours à Madagascar. À défaut de la croisée, c'est sous mes pieds que je l'ai trouvée. Ainsi, qui aurait pu penser que sous la dalle de béton d'un concessionnaire automobile, la terre gorgée d'huile, de vidange et d'hydrocarbures porterait aussi les germes d'une peste, la peste d'Amiens. À l'invite d'Yves Le Béchenec et du service Amiens Métropole, je me suis immédiatement rendu sur le fameux terrain pesteux.
Qu'est-ce que vous fouillez, Yves Le Béchenec ?
Alors là, on fouille un des états d'une succession de canaux qui vont structurer en fait les parcelles et qui, ici particulièrement, vont entretenir une relation un peu compliquée avec les futurs de cette petite île qui est de devenir un lieu de cimetière.
Donc on serait sur une île au départ ?
On serait sur une île à un moment donné. Au départ, pas forcément. En tout cas, à partir du moment où l'eau va circuler, il est possible que le chenal qui soit antérieur au canot soit lui déjà une réalisation anthropique. Donc on est en fait eu une zone humide romaine qui a été réinondée ou qui a été rechargée en eau par la mise en place d'un chenal. Et tout l'intérêt des phases qui vont venir de la fouille va être de comprendre si ce chenal est naturel ou si c'est déjà un aménagement anthropique.
Ce canal, il serait donc médiéval ?
Le canal lui-même, c'est-à-dire le canal sous-défini comme paroi maçonnée, lui est médiéval. En revanche, ses états antérieurs, ce qu'on va appeler le chenal, eux sont soit de la toute fin du Haut Moyen-Âge, soit du Moyen-Âge classique.
Qu'est-ce que vous avez dans ce canal ?
Alors, assez classiquement, on est aux abords d'une ville, mais d'une grande ville romaine, donc on va déjà avoir du matériel romain, et ensuite on va avoir toute une série de matériels médiévaux qui vont être les témoins de l'appellation ancienne de la rue, qui était rue de la Voirie, donc on va être sur des poubelles.
Donc vous trouvez des ossements d'animaux, des vieilles chaussures, ce genre de choses ?
Au diagnostic, parce qu'avant cette fouille, il y a eu un diagnostic. Au diagnostic, on a eu un son de semelles de chaussures, mais dans ce qui nous paraît aujourd'hui, rétrospectivement, être les parties les plus anciennes du chenal, dans le canal, malheureusement, on va dire, on est dans des milieux un peu trop secs, même si on les fouille en partie dans l'eau, et là, on n'a pas de cuir qui se soit conservé. En revanche, on va avoir la triade, c'est-à-dire qu'on va avoir une dominante de bœuf, on va avoir derrière une part non négligeable de moutons parce qu'on est en Picardie au Moyen-Âge. Et puis on va avoir aussi, et ça c'est une chance picarde, du cheval, puisqu'on a une consommation du cheval relativement tardive, c'est-à-dire jusqu'au XXe siècle.
On se situe où dans Amiens ?
On se situe aux marges. On est à l'extérieur de l'enceinte médiévale, on est dans l'espace entre la ville et le fleuve. La ville médiévale a du mal à venir combler l'espace qui a été laissé par les Romains entre l'enceinte et le fleuve.
En pelletant, qu'est-ce que vous trouvez, beaucoup de céramique ?
Alors en pelletant, ce qu'on trouve essentiellement, ce sont de jeunes stagiaires qui ont envie d'apprendre l'archéologie, ça c'est une grande chance, et eux trient par contre dans la brouette, ce qui leur permet de commencer à découvrir ce matériel, si je puis dire, à la base. Après ça, on a eu quelques belles surprises avec une clé, avec des éléments de lampe, en particulier de lampe en pierre, qui ne sont pas si fréquents que ça, mais qui sont un peu le commun de ce qu'on va avoir dans des poubelles, finalement, déplacées. Hein, on est dans des choses qui ont probablement connu un ou deux déplacements avant de finir par tomber dans le canal. On n'est pas sur un canal passant au milieu du marché avec les semelles de chaussures jetées des deux côtés par les étals de marché. Hein, on est vraiment dans cet abord de la ville, peut-être abord de la ville transformé par les moines en succession de canaux pour des moulins. Et nous, on va les retrouver dans un état où on est déjà dans quelque chose de beaucoup plus structuré, avec des murs maçonnés, etc.
Le crâne qui est au bout de votre tranchée, qu'est-ce qu'il fait là ?
Alors le crâne qui est au bout de notre tranchée gisait, si je puis dire, tranquillement. Il témoigne en fait de cette mutation qui fait que petit à petit, l'espace consacré aux morts va prendre la place sur l'eau vive et qu'on va refermer le canal par des successions d'aménagements, en particulier par la mise en place d'une paroi en pieu et par le comblement d'une partie des abords. On est vraiment là dans ce début de la pression urbaine qui se traduit aussi par le fait que cette parcelle est à un moment donné achetée aux moines pour l'Hôtel-Dieu et que cet Hôtel-Dieu a besoin de déposer une partie de ses morts. Tout l'intérêt, c'est qu'en même temps, et ça Richard le reprécisera, on est sur les abords d'une paroisse et qu'on va avoir mélange entre cet hôpital de l'Hôtel-Dieu et cette paroisse.
Richard Jonvel, l'élément important dans le paysage, c'est l'Hôtel-Dieu ?
Alors, à Amiens, dans le quartier Saint-Leu, en effet, l'Hôtel-Dieu, lorsqu'il commence à s'implanter au début du XIIIe siècle, dans les années 1230, dans le secteur, va structurer réellement l'habitat. En tout cas, c'est ainsi qu'on le comprend avec les données archéologiques et historiques que l'on a aujourd'hui. Ça va être l'institution de la charité dans le quartier Saint-Leu. Alors, dans ce quartier Saint-Leu, il y a trois paroisses. Il y a la paroisse Saint-Leu, Saint-Maurice et Saint-Pierre. Et l'Hôtel-Dieu, spécifiquement, s'installe dans cette paroisse Saint-Leu. Elle s'installe à cet endroit sur décision de l'évêque d'Amiens. Amiens, en raison de la construction de la nouvelle cathédrale gothique après l'incendie de la précédente en 1218, et pour des raisons de place, donc l'évêque cherche un terrain et vient l'installer dans ce quartier qui finalement a été fortifié très récemment, puisque la fortification du quartier Saint-Leu, de cette partie de la ville d'Amiens, n'intervient qu'à partir de la fin du 12e, début du 13e siècle. Et donc c'est dans un endroit protégé par des défenses que l'Hôtel-Dieu s'installe sur à peu près une bande de 100 mètres orientée donc est-ouest et de même superficie nord-sud, une bande qui va du canal que l'on a dégagé dans l'aire de fouille jusqu'à la rue Saint-Leu, qui est l'axe prépondérant de ce quartier qui est apparu en fait dès l'époque gallo-romaine. En fait.
Il faut continuer à gagner des terres, donc le canal va être bouché et cet Hôtel-Dieu va prendre ses terrains.
Voilà, alors de ce qu'on a pu comprendre actuellement, puisqu'on n'a pas encore regardé les textes, hein, ça interviendra qu'en seconde phase de la recherche, c'est que ce canal disparaît à la fin du 15e siècle, tout début du 16e siècle, et c'est à ce moment-là que l'Hôtel-Dieu, qui était déjà installé à l'est du canal, va acquérir visiblement ce terrain, qui est une ancienne île, l'île du Béguinage, très probablement, si on se situe d'après la carte de 1542, qui est le plan le plus ancien d'Amiens. Et c'est après cette acquisition et l'installation d'un grand bâtiment qui vient s'installer sur les débris du canal qui séparait jusqu'alors la limite de l'Hôtel-Dieu que va s'installer donc sur cette ancienne île, le cimetière que l'on est en train de fouiller, qui est visiblement datable du 16e, 17e siècle.
En revanche, tous ces bâtiments qui sont devant nous, ils correspondent à quoi exactement ? On connaît leur fonction ?
Alors, outre les murs du canal, le grand bâtiment donc, qui vient s'installer sur les débris après le comblement du canal, pourrait être, alors ça c'est à prendre vraiment avec des guillemets, la salle dite des pestiférés qui dans un texte en 1520, on nous le mentionne, est construite sur l'île du Béguinage. Et plus spécifiquement dans ce qu'ils appellent le jardin de l'Osière. Ça on a la documentation historique, c'est tout l'intérêt d'avoir une fouille en période d'époque moderne, 16e, 18e siècle, où là les textes sont beaucoup plus abondants. Et donc si d'autres hypothèses sont bonnes, le mur que l'on a juste devant nous serait donc le mur Goutreau ouest de ce grand bâtiment. Le mur opposé, lui, serait hors de la zone de prescription. Mais donc, a priori, ce grand mur d'une cinquantaine de mètres, large au minimum de 10-12 mètres, appartiendrait à ce bâtiment que l'on a dans les textes. Évidemment, ça demandera des vérifications ultérieures.
Richard Jonvel, qu'est-ce que l'on sait de la Amiens du XVIe, XVIIe siècle ?
Alors, jusqu'au XVe siècle, en relation avec les guerres de 100 ans, on est sur une ville frontière de garnison. Le pontu anglais n'est pas très loin à l'époque. Et on a une transition qui se fait avec l'État bourguignon qui se met en place et qui perdure jusqu'à la fin du XVe. Et c'est seulement à partir du début du XVIe siècle que Amiens se replace dans le domaine royal définitivement. Toujours en position frontière, puisque à une trentaine de kilomètres, on est confronté aux Pays-Bas espagnols et les rivalités entre France et Espagne, qui, donc, notamment l'Espagne Habsbourg, qui est en Espagne, en Autriche, mais aussi dans les Pays-Bas espagnols, donc toute la Flandre, Lille, Arras et toute cette partie nord. Et donc, à ce moment-là, donc, Amiens se retrouve en position frontière et de ville de garnison, mais dans un contexte beaucoup plus européen que précédemment, qui était une guerre franco-française quasiment entre Bourguignons et Français. Et là, on passe à un stade ultérieur qui est véritablement une ville frontière durable dans le temps jusqu'au XVIIe siècle.
On est dans la grande métropole régionale.
On est sur une grande capitale administrative. Le bailli et tous les officiers royaux sont à Amiens, avec notamment l'intendance qui se met en place au XVIIe siècle. Cette province amiénoise qui remonte en fait jusque dans le Boulonnais, le territoire picard remonte très loin dans le nord, et toute cette stratégie militaire dans laquelle est implanté Amiens jusqu'au XVIIe siècle fait qu'il y a, outre la population, c'est aussi une ville de garnison, ce qui amène évidemment beaucoup d'argent de la part de la royauté sur cette ville, qui se développe surtout à partir de ça, puisque la partie économique à l'époque médiévale, qui était basée sur notamment la Oued, disparaît complètement au XVIe siècle, et c'est plutôt cette position frontière qui explique pourquoi Amiens perdure comme ville principale dans le nord du Royaume de France.
C'est quoi la Oued ?
C'est une couleur, en fait, le traitement du textile, puisque Amiens, à l'époque médiévale, est reconnu pour ça. Et c'est une partie des financements qui vont permettre la construction notamment de la cathédrale gothique au XIIIe siècle. Grâce à l'enrichissement et à l'activité économique de la Oued, ça permet donc à la bourgeoisie aminoise de s'enrichir énormément et de financer une bonne partie de la cathédrale. Mais ce processus, tout ce tissu économique, petit à petit, va diminuer et va être fortement concurrencé par la Flandre notamment et l'économie en Flandre.
Yves Le Béchenec, cette couleur bleue, c'est avant l'indigo, c'est bien ça ?
C'est ça, et c'est un pur produit d'une agriculture qui commence à largement se développer sur les plateaux et qui enrichit largement son sol, mais encore avec de la fumure, et la fumure est rare. Résultat, on va s'orienter vers des choses qui sont peu consommatrices du sol, et pour ça, finalement, ces gros choux qui vont faire plus tard ce beau bleu, sont un beau produit.
Tout ça périclitera ?
Tout ça va péricliter pour des raisons diverses, la première étant l'arrivée d'autres techniques tintoriales, mais aussi la concurrence effrénée des productions anglaises.
Amiens, à cette époque-là, c'est un grand port ?
C'est encore un port fluvial. Et c'est un port fluvial qui, petit à petit, voit son arrivée sur la mer se boucher. Là, on est vraiment dans des choses que maintenant on illustre bien, qui sont que, pour ces époques finalement récentes, c'est-à-dire après l'âge du bronze, l'homme devient le principal moteur de l'érosion, et du coup, on va boucher un certain nombre des estuaires, malgré des remontées de la mer.
De fait, Amiens est plus connu au XVIe siècle qu'au XVIIe siècle. Le XVIIe serait une période encore peu appréhendée.
Alors, par l'archéologie, et là on a un contraste avec le travail des historiens, par l'archéologie, l'époque moderne a été finalement peu fouillée, à l'exception de la citadelle d'Amiens, où grâce à la transformation en faculté, on a pu fouiller quasiment 7 hectares dans la citadelle.
Autrement, on ne connaît rien sur le XVIIe.
Alors, autrement, on connaît un très riche fonds documentaire. On connaît aussi des grandes idées générales sur le développement de la céramique du Beauvaisis, sur etc. Mais on avait peu de fouilles permettant vraiment de caler, ne serait-ce que les plans anciens. Et là, tout l'intérêt du mur du canal va être d'aider à ce calage.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Élodie Jadelot, vous êtes bien sûr archéo-anthropologue, donc vous fouillez des squelettes. Des squelettes, il y en a même juste en dessous de nous.
Oui, tout à fait. Il s'agit d'un cimetière du coup d'Hôtel-Dieu. Là, on est vraiment dans la partie cimetière, où on a des individus qui sont placés de manière préférentielle, peut-être à l'ouest, comme dans tout bon cimetière chrétien, avec un peu toutes les tranches d'âge représentées pour ce qu'on a pu observer pour l'instant.
Ça daterait de quelle époque ?
Alors là, on est sur l'époque moderne. On sait qu'on est aux alentours du XVIe siècle, XVIIe siècle.
Et qui sont les gens recrutés dans ce cimetière ?
Comme c'est un Hôtel-Dieu, ce sont des indigents, donc des personnes pauvres qui ne peuvent pas avoir accès aux médecins, qui ne peuvent pas payer un médecin.
Ça se voit sur le corps que l'on est indigent ?
Alors oui, tout à fait. Ça peut se voir sur pas mal de choses, notamment c'est ce qu'on appelle l'état sanitaire. Et il faut savoir que l'ossement humain va enregistrer des stress pendant sa croissance. Et notamment, si jamais l'individu ne se nourrit pas assez, va avoir des carences alimentaires, le corps va enregistrer ses stress, avec notamment sur les dents, des lignes qui vont être assez apparentes. Donc ça va pouvoir nous permettre de dire que ces personnes-là ont une alimentation qui n'est pas suffisante.
Il y a d'autres types de stress ?
Oui, les ossements aussi enregistrent le stress des carences alimentaires. Puis après, on va aussi avoir des manières de vivre, des métiers qui vont être assez épuisants et donc avoir des lésions ou des pathologies qui sont liées à un rythme de vie plutôt intensif.
Le recrutement, ce sont des hommes, des femmes, des enfants ?
Alors dans ce cas de figure, nous avons tout. Pour l'instant, alors à affiner en laboratoire, mais ce que je peux observer pour l'instant, on a des enfants, toute classe d'âge, et on a des hommes et des femmes aussi. Tout est représenté dans ce cimetière, avec même des bébés, des périnatos.
Vous pensez en avoir combien ? D'ailleurs, la littérature, les textes anciens nous disent exactement le nombre d'individus qui pourraient être dans ce cimetière ?
Alors ça, c'est des recherches qu'on va pouvoir faire au niveau documentaire dans les archives plus tard, puisque chaque décès est inscrit dans les registres et ils sont encore présents, donc on va pouvoir les étudier. Nous ne fouillons qu'une partie de la parcelle, donc on n'aura pas une vision globale de tout le cimetière. Ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est que c'est très très dense, les sépultures se recoupent énormément entre elles. On estime pour l'instant à plus de 200 personnes.
En tout cas, ils sont très bien enterrés, dans des fosses, allongés, les mains croisées quelquefois. On sent qu'il y a eu un vrai soin.
Alors, dans le cas de figure du cimetière, on a beaucoup, beaucoup de pleine terre. J'ai pu observer quelques cercueils. On a un soin assez particulier. Effectivement, les individus sont assez souvent placés, donc du coup, en pleine terre, dans un linceul. Après, on a beaucoup, beaucoup de recoupements, ce qui induit qu'en surface, les tombes sont pas très bien signalisées. Du coup, quand on recreuse des tombes, on coupe des individus. Et parfois, ce que j'ai pu observer, il y a des individus qui n'ont pas fini d'être décomposés. Donc, c'est en cours. Donc, ça peut être très proche et on n'a pas une grosse signalisation en surface.
Ce cimetière, c'est ce que l'on trouve un peu partout en France. Vous qui sillonnez pour l'anthropologie de terrain, dirais-je, toute la France, c'est un grand classique.
Tout à fait. Alors, en plus, pour la période moderne, là, j'ai quand même une petite différence. On voit que ça sent le cimetière d'hospice, puisqu'en fait, les recoupements, ça arrive dans les cimetières très très couramment, avec des réductions et ce genre de choses. Ici, on sent que la mortalité arrive régulièrement et qu'on crée des fosses sans arrêt. Et que du coup, ça se recoupe encore plus que dans un cimetière paroissial.
J'avais vu la fouille du carreau du temple à Paris, c'est à peu près la même chose. Qui étaient les exclus de ce cimetière ou de ces cimetières d'hospices durant la période médiévale ou moderne ?
Alors normalement, les hospices vont vraiment accueillir donc du coup les indigents, mais alors pas d'épidémie, pas de personnes qui pourraient être contagieuses. Normalement, les enfants et les bébés vont être exclus aussi. Alors, ce qu'on peut observer pour l'instant, c'est que les enfants et les bébés, on les a. Donc, il n'y a pas d'exclusion là-dessus. Après, sur le reste, ça reste à déterminer.
Les exclus, vous les avez trouvés. Vous les avez trouvés de l'autre côté du chantier. Et donc, nous allons y aller.
Tout à fait. Nous sommes devant une grande fosse remplie d'individus. Alors, il faut savoir qu'étant donné l'époque, quand on a des grandes fosses comme ça remplies d'individus, ça veut dire qu'il y a eu un pic de mortalité. Et du coup, une mort subite de beaucoup de personnes.
On serait sur la peste ?
C'est la première hypothèse. Les textes nous indiquent que ce serait la peste. Et ça correspond assez bien à ce qu'on retrouve pour l'instant, puisque dans cette grande tombe, on retrouve toutes les catégories d'âge et les deux sexes. Sachant que la peste, c'est vraiment une maladie qui va toucher tout le monde. Et donc on a une mortalité très particulière dans cette fosse puisqu'on va retrouver des individus qui, logiquement, on ne retrouve pas énormément dans les cimetières, c'est-à-dire des jeunes adultes et des adolescents. Voilà, on les retrouve ici et dans les cimetières, c'est pas ce qu'on retrouve le plus puisque c'est une mortalité qui n'est pas la plus courante normalement. Donc là, on a vraiment tous les âges, tous les sexes.
Il y aurait combien d'individus ?
Alors dans cette fosse-là, on estime à 30 le nombre d'individus pour l'instant fouillés. Nous avons fouillé une autre fosse juste derrière qui était plus petite, dans laquelle il y avait 18 individus.
Et comment sont-ils rangés ? Et d'ailleurs, est-ce que l'on peut dire qu'ils sont rangés ?
Alors oui, pour le coup, c'est donc une sépulture de crise et un pic de mortalité. Mais on a une organisation des squelettes. Ils ne sont pas jetés dans la fosse, ils sont déposés sur le dos, avec soin, voire sur le côté quand ils sont en bord des parois, et avec assez de soins et une organisation qui permet d'utiliser la fosse de manière optimale et de mettre le plus d'individus possible sans qu'ils se retouchent trop les uns les autres.
Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'est pas du tout sur le même recrutement, sur la même population que ce que l'on a vu tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait affaire à des indigents. Là, on aurait affaire à toute la population d'Amiens.
Tout à fait, puisque la municipalité demande à l'Hôtel-Dieu de gérer les pestiférés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que normalement, les épidémies ne les gèrent pas. Donc là, c'est vraiment la municipalité qui va leur demander. Et donc, il y a une salle des pestiférés qui va être créée. Et donc, ces grandes fosses qui sont creusées, dans lesquelles on met les individus. Et donc, on sait bien que la peste touchant tout le monde, on a sûrement une catégorie de population beaucoup plus large qui pourra toucher toute la ville. Voilà, la peste étant quelque chose de très contagieux, ils le savent à l'époque, le statut des individus devait moins importer à ce moment-là. Ils sont vraiment tous mélangés. Donc, le but est de voir si c'est d'avoir cette réponse. Est-ce qu'il y a une réelle différence d'état sanitaire entre les deux populations, ceux de ces fosses et ceux du cimetière qui sont juste derrière.
Donc à vous écouter, ici, on est sur des squelettes de bien portant.
Pas que, je pense qu'on va avoir un peu tout dans la population, mais certains squelettes sont certainement, oui, des individus un peu plus aisés que les indigents juste derrière.
Est-ce que vous en avez d'ailleurs la preuve anthropologique ?
Alors pour l'instant, pas de preuve certifiée, tout ça est encore à voir en laboratoire juste derrière. Mais j'ai vu des traces de maladies qui seraient plutôt effectivement dues à une suralimentation et des causes d'obésité notamment. Et ça, ce genre de choses indique un niveau de vie différent des indigents.
Ça se traduit sur l'os ?
Oui, alors c'est pas avec certitude, ce sont des maladies qui ont plusieurs causes, mais c'est une des causes. Et oui, ça va se voir sur l'os, et la maladie dont je parle est la maladie hyperostosique ou la DISH. Ce sont des coulées osseuses qui soudent les vertèbres entre elles, donc sur la colonne vertébrale.
Pour les sépultures de pesteux, on parle souvent de sépultures de catastrophe. Est-ce que pour vous, on est sur ce type de sépulture ?
Évidemment, on est sur une période de crise. Catastrophe, on peut quand même en parler, mais c'est de la catastrophe gérée, très bien gérée. On sent qu'ils ont l'habitude. Les fosses, on a différentes tailles de fosses, qu'on en a au moins 4 au minimum. Les fosses sont adaptées en fonction de la mortalité. On n'a pas de. Voilà, les individus sont bien disposés. Donc c'est géré, mais on a un pic de mortalité. Donc on a une période de crise. Donc c'est quand même de la catastrophe, mais gérée.
On serait sur la peste, mais quelle peste, puisque j'ai vu qu'il y avait 12 pestes qui sévissaient à Amiens au XVIIe siècle.
Alors ça, pour l'instant, je ne peux pas répondre. Déjà, il va falloir qu'on ait le résultat, la recherche du bacille Yersinia pestis sur les ossements. Si elle s'avère positive, on avait donc raison, c'est bien la peste. Quel type de peste, pour l'instant, je ne peux donc pas trop vous répondre. Par contre, comme toute peste, il y a sûrement la pulmonaire et la peste bubonique qui coexistent en même temps, comme c'est le cas sur quasiment toutes les pestes.
C'est-à-dire que vous ne pourriez pas dire si nous sommes sur la peste de 1634 ou celle de 1668 ?
Alors ça, c'est vraiment en post-fouille et l'affinage des datations et l'étude aussi des ressources textuelles en archives qui va pouvoir nous permettre d'affirmer ça si voilà, on a la preuve que c'est bien la peste, d'affiner au plus près ce genre de choses. Pour l'instant, on a des suppositions, mais on ne peut pas affirmer quelque chose pour l'instant. Non.
Fouiller des pesteux, c'est quand même un drôle de métier. Il n'y a aucun risque ?
Non, en fait, le bacille Yersinia pestis est donc encore présent dans les ossements, mais il n'est plus actif. Il faut savoir que la peste, c'est une maladie très dangereuse, c'est sûr. Mais par contre, c'est la puce qui est sur le rat, qui infecte, qui pique. Et du coup, c'est vraiment elle qui va transmettre la maladie. Sur les cadavres, au bout de plusieurs heures, la puce va partir et va partir sur les vivants. Donc là, on est vraiment... je doute qu'une puce ait survécu plusieurs siècles et puisse venir nous piquer. Donc non, il n'y a pas de danger.
J'ai lu dans La Voix du Nord de 1939, un compte-rendu d'ailleurs d'une thèse d'un médecin qui travaillait sur la peste d'Amiens donc au XVIIe siècle. Lui évoquait, bien sûr c'était à peu près à l'époque, évoquait non pas la peste mais carrément la grippe espagnole.
Ça encore, va falloir déterminer tout ça et vérifier. Alors parce qu'en fait, comme on a une grande fosse avec plein d'individus et qu'on a l'hospice juste derrière, rien n'empêche qu'au sein de la fosse, on a des individus qui ne sont pas morts de l'épidémie en question, puisqu'on va quand même avoir des individus qui vont mourir d'autre chose. Donc là, c'est le choix des individus à tester pour retrouver le gène qui va être très très important. De toute façon, la peste, ce n'est pas une maladie qui va atteindre les ossements. Donc moi, en observation pure de l'os, je ne peux pas savoir si c'est la peste ou pas la peste. Par contre, le recrutement de la fosse m'indique que ça peut être une épidémie qui va toucher tout le monde. Et la peste, elle fait vraiment ça. Du coup, pour l'instant, ça colle bien avec la peste. La grippe espagnole, on verra si jamais le retour est négatif. Sur la peste, on pourra se poser les questions sur les autres épidémies qui ont pu valoir cette fosse. Et ça peut être plusieurs épidémies en même temps, ça peut être pas mal de choses. Les textes mentionnent assez bien la peste et pour l'instant, ça colle assez bien.
Ces individus, ils ne possèdent aucun objet, rien ?
Non, ils sont disposés donc sur le dos, en linceul, tous. On a eu aussi un individu, un périnatal, dans un cercueil, mais pas du tout accompagné. Il n'y a aucun objet qui les accompagne, pas de mobilier, pas de bijoux, pas de bagues, rien du tout.
Est-ce que ce sont des cimetières chrétiens, pour autant ?
Alors oui, on est dans une période où la chrétienté et l'Église est l'institution majeure. Donc oui, par contre, le fait... qu'on ait ces orientations qui varient vraiment beaucoup, qui ne sont pas la tête à l'ouest de manière privilégiée, qui soient dans une fosse commune, indique qu'il y a eu donc une crise de mortalité. Et on rompt les rites chrétiens d'inhumation dans lesquels la fosse avec la tête à l'ouest est tout seul dans sa sépulture.
Richard Jonvel, on peut estimer que petit à petit, la crise de peste ou les crises de peste s'atténuent ?
Oui, alors d'après la documentation en archive, jusqu'alors repérée par les historiens, qui ont fait un gros travail déjà sur les hôtels dieux en Picardie, on sait qu'en 1675, l'ordre est donné de mettre un terme à l'utilisation de cette parcelle comme cimetière, en association avec la destruction du grand bâtiment dit à salle des pestiférés, construit au début du XVIe siècle, ce qui nous donne une date de fin très intéressante, et qui va nous permettre notamment aussi de mieux dater le mobilier archéologique qui est associé à ces différentes sépultures.
On n'aura plus de peste ensuite sur Amiens ?
Alors le terme peste, et il faut faire attention à son utilisation, est assez vague à l'époque, puisque des épidémies, il y en a encore, le choléra touche la France jusqu'au XIXe siècle. Donc il y aura encore des phénomènes d'épidémie. Des fois, c'est simplement lié à des hivers beaucoup plus froids qui entraînent des pics de mortalité très importants. Donc en fait, les gens meurent en raison d'une alimentation trop faible qui les conduit donc à s'épuiser trop rapidement durant l'hiver. Et donc on a aussi ces pics et ces épidémies qui sont entraînées par ce phénomène alimentaire. Mais la peste en tant que telle, elle disparaît à la fin du XVIIe siècle dans le secteur où on se situe.
Donc si je comprends bien, après ce pic de peste ou ces pics de peste, ce cimetière et ces bâtiments sont totalement condamnés.
Oui. Alors en France, à partir du XVIIIe siècle, il y a une grande vague politique qui fait que les cimetières sont rejetés à l'extérieur des villes pour des raisons hygiénistes qui ont été bien repérées par les historiens pour le XVIIIe siècle. Et donc à Amiens, ce phénomène est également ressenti ici puisque la parcelle est définitivement abandonnée à la fin du XVIIe siècle.
Pour être transformée en garage dans les années 80.
En jardin puis en garage. Et entre-temps, comme parcelle où des baraquements furent édifiés après la Seconde Guerre mondiale pour les réfugiés qui avaient perdu leur maison.
Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar à la technique, Jean-Louis Deloncle et avec la collaboration d'Anne-Catherine Lochard. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. www.carbone14.fr. La semaine prochaine, Carbone 14 se penchera sur l'art des cavernes et ses sociétés du Paléolithique.